Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est le second volet de notre clé de l'orchestre consacré à la 9e symphonie de Beethoven. Nous nous sommes quittés la semaine dernière sur son merveilleux troisième mouvement. Nous voici cette semaine devant son grandiose finale, celui qui fait entendre l'hymne à la joie, finale de vaste proportion auquel nous consacrons cette seconde clé de l'orchestre beethovenienne. Un final faisant appel non seulement à un orchestre renforcé de 3 trombones, 3 percussionnistes, 1 piccolo et 1 contrebasson, mais aussi pour la première fois dans l'histoire de la musique d'un chœur et de 4 solistes vocaux. Nous rejoignons maintenant sans plus attendre l'auditorium de Radio France pour explorer, comprendre et écouter le 4e mouvement de la 9e symphonie de Beethoven. Voilà, nous y sommes, 4 chanteurs solistes, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, le chœur de Radio France, et vous pensez peut-être que maintenant le final va commencer, il va y avoir un mouvement rapide, et puis les thèmes vont se succéder les uns aux autres, et tout ça avec une animation, une gloire, une force. Eh bien, pas du tout. Enfin, je veux dire, pas tout de suite. Parce que Beethoven a une idée que je trouve presque folle. Il commence par une introduction, mais une introduction tout à fait singulière. On a l'impression, à partir de maintenant, que nous entrons dans le cerveau de Beethoven. Je veux dire qu'il va, en quelque sorte, nous faire entendre son travail d'élaboration. Tout d'abord, nous écoutons un accord tout à fait incroyable, ce que Wagner nommait la fanfare de l'épouvante. Un accord très dissonant, déjà qui nous surprend, et puis tout de suite après, nous écoutons les basses des cordes, violoncelle et contrebasse, nous livrer une sorte de récitatif, mais de récitatif sans parole, de récitatif muet. Ce sont uniquement les cordes de l'orchestre qui, en quelque sorte, incarnent l'esprit de Beethoven qui cherche. Il a planté un premier accord, il a fait entendre une très grosse dissonance à l'orchestre, et il cherche. Et là, évidemment, dans son esprit se mélange le passé et le présent. D'ailleurs, comme c'est notre cas dans la vie, nous sommes toujours partagés entre le présent, ce que nous sommes en train de faire, et puis des souvenirs, des réminiscences qui nous reviennent. Et bien justement, à ce moment-là, réminiscence du premier mouvement de la symphonie. Mais très brève, la réminiscence, parce que tout de suite après, l'esprit de Beethoven recommence à chercher les violoncelles, les contrebasses. Nouvelle réminiscence avec un tout petit bout du scherzo, hein, quelques secondes, pas plus. L'esprit cherche de nouveau. On entend quelques mesures, presque rien, du mouvement lent. Et de nouveau, l'esprit cherche. Et là, on entend quelques notes qui forment en quelque sorte la prémonition de ce que va devenir l'hymne à la joie. Mais on n'y est pas tout à fait. Comme si Beethoven se disait, oui, non, pas le premier mouvement, là, vraiment, on n'était pas bien à cette époque-là, j'étais trop tourmenté, j'étais trop tumultueux à l'intérieur de moi-même. Non, pas le scherzo, ça nous rappellerait une énergie trop désordonnée, trop de colère, trop de mauvaise humeur. Hein. On sait que Beethoven était facilement de mauvaise humeur. Le mouvement lent, oui, mais enfin, voilà, c'est le moment paisible. Il fallait traverser un moment peut-être calme, recueilli, peut-être un peu triste aussi, pour en arriver à la joie finale. Et là, tout d'un coup, on a l'impression qu'il nous dit « Et pourquoi pas ça ?» Alors, on entend quelques notes, et puis de nouveau, l'esprit cherche, et c'est ainsi que nous assistons à l'introduction la plus étonnante qui n'ait jamais été imaginée par un compositeur pour un début de finale de symphonie. Je propose maintenant que nous entendions cette toute première partie du final, et pour cela, je rappelle bien sûr notre chef d'orchestre, M. Mikko Franck. Et nous en arrivons enfin à notre hymne à la joie. Alors, déjà, vous entendez parfois parler d'hymne à la joie, parfois d'ode à la joie. Par ode à la joie, on entend habituellement le texte de Schiller. Nous y viendrons à ce texte. Pour l'instant, nous nous concentrons sur la musique. Et la musique, on l'appelle l'hymne à la joie. L'hymne à la joie, il a une longue histoire. Parce que figurez-vous que 30 ans plus tôt, déjà, Beethoven a écrit une mélodie pour chant et piano qui fait entendre ceci. On n'est pas très loin de l'hymne à la joie, vous êtes d'accord? Bon, l'hymne à la joie, ça serait... Et la mélodie que je viens de jouer... Ça, c'est donc en 1795. Beethoven a 25 ans. Mais plus tard, ce thème, il va le reprendre. Il va le reprendre lors d'un concert très célèbre qui a été donné à Vienne en 1808. Très célèbre puisqu'on y a entendu une fantaisie pour piano, chœur et orchestre qui reprend le thème que je viens de jouer, et puis également le 4e concerto, et puis, pour la première fois, la 5e symphonie et la 6e symphonie. Je vous ai dit qu'à l'époque, on aimait bien les concerts fleuves. Et encore, je vous fais grâce du fait que Beethoven, pendant ce concert, a improvisé une bonne demi-heure et qu'il a aussi donné à entendre quelques airs vocaux qu'il venait de composer, et même quelques parties d'une petite messe aussi, si je me souviens bien. Enfin bref, ça c'est donc le mois de décembre 1808. Beethoven a 38 ans. Et puis, en 1817, c'est le moment où il écrit les premières esquisses de sa 9e symphonie. Et enfin, nous y sommes maintenant, 1824, la première audition de la 9e symphonie. Et là, nous allons pouvoir entendre l'hymne à la joie évidemment que nous connaissons tous par cœur, qui est devenu aujourd'hui notre hymne européen. Et là encore, une surprise. On s'attend à ce qu'on l'entende avec des paroles, en gloire, en force. On aurait presque tous envie de se lever pour écouter l'hymne à la joie. Eh bien, pas du tout. Une fois de plus, j'ai l'impression que Beethoven veut conduire la symphonie comme si on était dans son cerveau, c'est-à-dire qu'il va nous faire entendre le thème tout seul, doucement, par les violoncelles et les contrebasses, un peu comme s'il était en train de le composer. Vous savez, comme un compositeur qui ferait... Ah, je note, c'est pas mal ça. Fa, fa, mimi. Oui, c'est bien ça. Fa, fa, mimi. Fa, fa, ça. Alors, peut-être qu'il faudrait un deuxième petit motif. Mimi, fa, ré, mi, fa, sol, fa. Ah oui, je note, ça c'est pas mal. Et c'est ça qu'on entend. Et petit à petit, ce thème qu'il imagine dans son cerveau, je l'ai dit tout à l'heure, hein, Beethoven était devenu complètement sourd, donc il imagine la musique, c'est toujours un travail intérieur, une audition intérieure. Petit à petit, le thème va rentrer à tous les instruments et envahir tout l'orchestre. Donc nous écoutons maintenant l'arrivée de l'hymne à la joie, mais l'hymne à la joie version instrumentale. À la joie, version instrumentale, et bien sûr, pour les besoins de l'explication, nous avons interrompu le discours musical. On sent bien qu'il continue. Vous avez entendu cet effet théâtral, hein. Tout d'un coup, on avait une nuance extrêmement douce, et puis ça reprenait pour aller où ? Eh bien, nous allons enfin entendre chanter, parce que peut-être que vous vous dites que nous avons fait rentrer quatre magnifiques solistes vocaux, un grand chœur au grand complet, et quand est-ce qu'ils chantent, ça va venir. Mais juste avant, il faut que je vous dise maintenant quelques mots du texte de cette fameuse « Ode à la joie » de Schiller, qui est écrite par Schiller. Schiller, c'est vraiment un très grand écrivain, un très grand poète allemand. C'est écrit donc en 1785. Beethoven n'a que 15 ans. Et cette « Ode à la joie » va vite devenir l'un des chants de ralliement de la jeunesse allemande. Pourquoi ? Ça parle de joie. Bon, très bien, la joie, oui, mais derrière la joie, il y a un contenu peut-être un peu plus social, un contenu un peu plus politique même. En effet, le texte dit « Joie, belle étincelle des dieux, ton enchantement unit de nouveau ceux que les conventions séparaient. Là où plane ton aile si douce, tous les hommes deviennent frères. » C'est-à-dire qu'on parle de l'abolition des conventions sociales. On parle de fraternité entre tous les hommes. Et d'ailleurs, on dit souvent que Schiller aurait commencé par écrire son ode avec le mot « liberté » et que pour des raisons de prudence, pour être sûr de ne pas avoir de problème avec la censure, il aurait remplacé le mot « liberté » par le mot « joie ». Donc un contenu social, un contenu politique. Et ce texte va très vite intéresser Beethoven. On sait qu'à l'âge de 22 ans, Beethoven voulait mettre en musique ce texte. On le sait parce qu'on a une lettre d'un ami de Beethoven qui intercède auprès de la femme de Schiller en lui disant « Je vous assure, mon ami est un tellement grand musicien, il a un tel idéal, c'est quelqu'un de tellement noble, je suis sûr qu'il va mettre en musique cela de manière absolument magnifique. » On pense également que Beethoven, à l'âge de 33 ans, l'a mis en musique, mais qu'on a perdu le manuscrit de la partition, en tout cas, si l'on en croit l'un de ses proches. On n'en est pas totalement sûr. Et d'ailleurs, peu de temps après, ça c'est un peu anecdotique, mais enfin quand même, c'est un fait qui mérite d'être signalé, Schubert, le jeune Schubert, à l'âge de 18 ans, va mettre en musique le texte de Schiller. Alors, ce n'est pas une mélodie inoubliable, hein, c'est pour voix et piano, c'est assez agréable, je dirais.
Freude, schöner Götterfunken, Torter aus Elysium.
Je demande pardon, chanteur, hein, c'était juste pour faire entendre cette petite mélodie de Schubert. Et enfin, Beethoven va avoir l'idée d'utiliser ce texte pour couronner sa 9e symphonie. Et pratiquement 32 ans se seront écoulés entre la première intention de mettre en musique le texte de Schiller et le moment où nous sommes maintenant, c'est-à-dire, je vous le rappelle, au mois de mai 1824. 32 ans. D'une certaine manière, on peut dire que l'hymne à la joie et partant toute la 9e symphonie est l'œuvre de toute une vie. Alors Beethoven ne va pas garder la centaine de vers de l'ode de Schiller, il en garde à peu près un tiers, se concentrant sur 6 thèmes: la joie, la fraternité, l'amitié, la nature, l'héroïsme et l'amour universel. Maintenant, nous allons découvrir en quelque sorte la version vocale, enfin, de l'hymne à la joie, mais Beethoven a encore un peu de cerveau à nous faire entendre. Ce que j'appelle un peu de cerveau, c'est-à-dire qu'une fois de plus, il va nous faire rentrer dans son processus de composition, comme s'il mettait en scène sa manière de créer la musique. Nous allons retrouver, vous savez, l'accord très dissonant de tout à l'heure, celui que Wagner appelle la fanfare de l'épouvante. Pourquoi il est très dissonant ? Parce qu'il fait entendre en même temps un accord de tonique et un accord de dominante. Un accord de tonique, nous sommes en ré mineur, voilà l'accord de ré. Et très souvent, dans la musique classique et romantique, on alterne l'accord de tonique et l'accord de dominante. Mais si on fait entendre en même temps un accord de tonique et un accord de dominante, avouez que c'est quand même un petit peu sauvage. C'est justement cette superposition encore plus violente que tout à l'heure que nous allons entendre maintenant. Et là, nous écouterons le célèbre solo de baryton. Et vous allez dire, bon, ben, enfin, il va dire les paroles de Schiller. Eh bien non, car Beethoven, à ce moment-là, rajoute des paroles qui disent en substance, non, pas de cet affreux vacarme. Allons, les amis, chantons plutôt tous ensemble des chants de joie et d'allégresse. Mais enfin, c'est tout à fait extraordinaire que Beethoven mette ça dans sa symphonie, parce que qu'il se soit dit ça à l'intérieur de lui-même, je comprends qu'il se soit dit, bon allez, maintenant je vais composer de la musique joyeuse. Mais il le met en musique, et donc, la première fois que nous entendons des paroles dans cette 9e symphonie, ce ne sont pas des paroles de Schiller, mais des paroles de Beethoven, qui nous annoncent qu'il va renoncer à tout ce tumulte, à toutes ces dissonances, et nous allons enfin pouvoir chanter la joie. Alors la joie, ben là quand même, on y arrive, c'est l'hymne à la joie. D'abord, nous aurons le baryton qui va chanter cet hymne. Juste après avoir dit les paroles de Beethoven, nous en arrivons à Schiller et à l'hymne à la joie. Et puis tout de suite après, l'hymne à la joie est repris par le chœur, les solistes, le chœur en alternance. Et c'est toute la masse orchestrale et vocale qui se met à chanter la joie.
Yeah.
Enfin, nous avons écouté l'hymne à la joie version vocale, c'est-à-dire avec des paroles. Et là, nous nous sommes arrêtés sur un accord modulant. Que va-t-il se passer ? Eh bien, c'est maintenant ce qu'on appelle parfois la variation turque. Alors, pourquoi turque ? Eh bien, je vous explique. À ce moment-là, dans le texte, est évoqué les héros qui vont avec joie vers la victoire. Et c'est chanté par le ténor, par Christiane, après le solo de baryton. Donc, il va y avoir un solo de ténor. Et c'est à ce moment-là que la musique est ponctuée par les trois percussionnistes qui sont entrés pour le dernier mouvement. Donc, la grosse caisse, la cymbale et le triangle. À l'époque, on appelait ça percussion turque parce que c'était imité des percussions des musiques des janissaires. Vous savez que les Turcs, c'était l'ennemi héréditaire de Vienne, des Autrichiens. Et donc, ce que les Autrichiens connaissaient de la musique des Turcs, c'était la musique militaire, la musique des janissaires. Et bon, par plaisanterie, on avait introduit dans la musique viennoise des morceaux qu'on appelait des turqueries et qui se servaient justement de ces rythmes militaires turcs. Il y a la célèbre marche turque de Mozart, il y a également la marche turque des ruines d'Athènes de Beethoven. Alors là, ce n'est pas véritablement une marche turque, mais enfin, il y a quand même ce petit côté marche avec la percussion et qui nous entraîne dans un rythme ternaire. Le solo donc de ténor, après l'orchestre s'en donne à cœur joie. Alors sur ce rythme ternaire, il foisonne, il y a du contrepoint, il y a des entrées fuguées avant que ne revienne en gloire le chœur pour chanter de manière encore plus dynamique qu'à l'instant l'hymne à la joie. Et puis, il y aura un nouveau coup de théâtre, ces coups de théâtre dont Beethoven a le secret. Donc nous écoutons ce que j'appelle la variation turque, toujours tirée du dernier mouvement de la 9e symphonie.
Thank you.
Et maintenant, le coup de théâtre, la surprise dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que le mouvement s'arrête. Pourtant, nous commençons à être proches de la fin du final et donc de toute la symphonie, car arrive un nouveau thème que j'appellerai le thème des millions. C'est ce que Schubert avait utilisé pour faire le refrain de sa mélodie, qui était une mélodie strophique, c'est-à-dire couplet-refrain, couplet-refrain. Et pour son premier refrain, il y avait ces mots tellement importants dans le texte de Schiller, « Soyez unis, millions d'hommes, qu'un seul baiser enlace l'univers. » À ce moment-là, Beethoven interrompt tout mouvement, comme un moment tout à fait sacré, religieux, métaphysique, une gigantesque prosternation majestueuse de l'orchestre et du chœur. En écoutant cette union si bouleversante du chœur et de l'orchestre, j'ai l'impression en quelque sorte que la marche du monde s'est arrêtée. Car maintenant, Beethoven va superposer le thème de l'hymne à la joie et le thème des millions. Superposition de la joie et de l'humanité. Le thème d'Emilio en dessous. Superposition des deux. La joie et l'humanité ne font plus qu'un. Le tout dans le style des fugues de ces oratorios de Handel pour lesquels Beethoven avait tant d'admiration. Il n'y a plus de couplets, il n'y a plus de refrains, il n'y a plus qu'une seule idée qui conjoint la joie et l'humanité. Et à la fin de cette superposition, vous allez entendre une étonnante immobilisation du temps et de la matière sonore sur les mots « Cherchez le Créateur au-dessus de la voûte étoilée, il doit habiter au-dessus des étoiles. » Superposition des deux thèmes. Après la superposition des thèmes de la joie et des millions, la joie a définitivement pris possession de tous les cœurs. Et c'est la dernière partie du final, donc la dernière partie de toute la 9e symphonie. Frémissement des cordes, contraction et dilatation du temps. Et c'est l'extraordinaire passage du quatuor des solistes vocaux qui semble chanter en vocalise comme ivre de joie. Accélération, prestissimo final, et une dernière fois, nous entendons notre hymne à la joie. Comment ne pas être d'accord avec cette citation de Claude Debussy ? Dans cette œuvre aux proportions énormes, rien n'est inutile. On a dit qu'avec la 9e symphonie, Beethoven avait fait entrer l'humanité dans une ère nouvelle. L'humanité est devenue fraternité. Thank you.
C'était donc le final de la 9e symphonie de Beethoven par l'Orchestre Philharmonique et le Chœur de Radio France sous la direction de Mikko Franck. Soprano Annette Dash, mezzo-soprano Alissa Kolosova, ténor Christian Elsner, basse Kwang Shul Yoon. Chef de chœur Lionel So, musicien metteur en onde Arnaud Moral, prise de son Joël Soupiron assisté de Xavier Lévesque, responsable de la programmation éducative et culturelle de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, Cécile Kaufmann-Nègre. Et puisqu'il nous reste encore un peu de temps avant la fin de cette émission et que vous m'avez entendu parler au cours de cette clé de l'orchestre de la fantaisie pour piano, chœur et orchestre opus 80, cette fameuse fantaisie dont le thème préfigure très nettement celui de l'hymne à la joie, je vous propose d'écouter à présent la dernière partie de cette œuvre singulière par le pianiste Rudolf Serkin et l'orchestre symphonique de Boston sous la direction de Seiji Ozawa. Basse mystérieuse, entrée des cordes, quinte des hautbois auxquelles répondent celles des corps, voix de femme, voix d'homme, soliste, cœur et tutti. le final de la fantaisie pour piano, chœur et orchestre, opus 80 de Beethoven. C'était Rudolf Serkin qui tenait la partie de piano et l'orchestre symphonique de Boston placé sous la direction de Seiji Ozawa. Voilà un final comme on les aime, très beethovenien, qui n'en finit plus de finir. Mais c'est bien sûr pour notre plus grand plaisir. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec la collaboration de Thibaut Perrine. À la semaine prochaine.
Merci Jean-François Zigel et on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir. Bon week-end sur Inter.